Les gens, alors notamment chez moi, quand on dit riche ou patron, les gens ils pensent à leur tonton qui a une PME ou une TPE qui rentre 5000 balles par mois, qui travaille 80 heures par semaine. Mais on parle pas, mais tant mieux pour lui, tant mieux pour vous. On ne parle pas de vous.
L'actualité cette semaine, elle a été marquée, évidemment, on vient de l'aborder avec notre invité actu. Elle a été marquée par la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à 5 ans de prison, entre autres, pour association de malfaiteurs, assortie d'un mandat de dépôt différé et d'une exécution provisoire. L'ancien président Nicolas Sarkozy va bel et bien dormir en prison. Il a dit qu'il dormirait en prison la tête haute.
Ça ne va pas être confortable, hein. Faut qu'il fasse attention.
Ouais, mais ça peut être bon pour l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous l'avez appris ? Ça vous a surpris ou pas ?
Non.
Non, Loumir ?
Non, je veux dire, quand on a plus d'une dizaine d'affaires qui nous suivent depuis plusieurs années, c'est pas surprenant qu'il y en ait une qui finisse par le rattraper. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il est effectivement... Enfin, j'attends encore de voir la nuit en prison. Mais c'est comme pour l'affaire Balkany. C'est toujours surprenant quand... une fois, à un moment, une personnalité politique finit par payer quand on voit ce que des citoyens normaux, nous, on fait la moitié, un tiers, un quart de ce qu'ils font, tu peux être sûr qu'on va en taule. Hein. Enfin, c'est sûr. Et c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où tu enfreins la loi, il n'y a pas de sujet. Mais je trouve ça toujours fou de se réjouir que justice soit faite. Face à des politiques, parce qu'on a fini par accepter que l'impunité, finalement, est la norme. Et ça, je trouve que c'est vraiment très grave.
Ouais.
Latifa ?
Moi, ce qui est inquiétant, c'est plus les réactions, forcément, de la droite et de l'extrême droite. C'est encore un moment où Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen convergent là-dessus, mais c'est le fait de... Tout à coup, en fait, on peut discuter des décisions de justice sur le fond. On peut échanger, etc. Voilà, on est dans un état de droit, il y a une liberté d'expression, etc. Mais en fait, jeter la suspicion sur l'autorité judiciaire ou sur des juges en particulier, etc., c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et en fait, on a l'impression que... forcément, encore une fois, on a une genre de trumpisation de la vie politique où on est là en train de dire, finalement, ça ne compte pas, alors que les juges, quand même, et leur indépendance est extrêmement important et c'est fondamental. Ils rendent des jugements qui sont motivés. Enfin, je veux dire, là-dessus, on a 400 pages de jugement, quand même, sur cette affaire. On a 400 pages de jugement, c'est extrêmement circonstancié, extrêmement précis. Et en fait, on va remettre en question ça, alors que quand Loumir l'a dit, pour la citoyen lambda qu'on fait le quart de ça, évidemment, ils vont en prison, ou alors c'est toujours la même personne, soit de droite ou d'extrême droite, qui vont trouver justifié de dire Naël, pour ne pas le nommer, un gamin qui se fait tuer parce qu'il a conduit sans permis, etc. Ils vont trouver 10 000 manières de le justifier. Mais en revanche, là... 13 ans d'instruction, je crois que c'est ça, hein, sur cette affaire, enfin des révélations de Ménapart, 13 ans d'instruction, un jugement des enquêteurs pour parvenir à ce jugement-là, effectivement, qui est, il a fait appel, Nicolas Sarkozy. Ça montre encore une fois ce que tu as dit, en fait, le décalage entre la population et les politiques de la part d'une partie de la catégorie, de la classe politique qui, quand même, a renforcé extrêmement la justice et sur un point de vue hyper carcéral. Enfin, c'est ça aussi qui interpelle. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la justice, c'est pour tout le monde à part pour eux ?
Sauf pour eux, oui.
C'est pas possible.
Oui, elle est toujours laxiste, mais sauf pour eux, en fait. C'est ça qui est fou, je trouve. Tu es sur les plateaux de télé à longueur de journée, on nous parle de la justice trop laxiste, et au moment où justice est faite, on annule tout, les juges sont de gauche, c'est la dictature des juges. Et tu dis, il faut savoir, en fait, c'est trop laxiste ou c'est trop dur.
Ouais, c'est exactement ça. C'est des hommes et des femmes politiques qui ont l'habitude de toujours prôner plus de dureté, plus de sanctions pour les gens lambda. Et par contre, une fois que c'est... Mais de toute manière, on en avait parlé longuement avec Fabrice Arfi sur le plateau de Backseat, justement, où en fait, c'est un jeu très dangereux auquel ça donne en fait nos hommes et nos femmes politiques, parce que ils participent aussi à mettre en place une sorte de logique un peu complotiste qui voudrait que les juges soient un peu contre eux systématiquement, parce que il y a quelque chose de très dangereux dans ce jeu-là, et tu viens de l'expliquer parfaitement, Latifa, et je pense aussi que malheureusement. Quand on voit aussi dans des plateaux de télé des bandeaux qui expliquent est-ce que la justice a été trop sévère, bah ça participe à ça en fait, ça participe à se dire mais à décrédibiliser en fait ce jugement et l'indépendance de la justice.
Oui, il y a un truc que je trouve intéressant dans la période, c'est l'union des droites. Une fois de plus, le cordon sanitaire est rompu. Quand on voit que Marine Le Pen vole au secours de Nicolas Sarkozy sur la question de l'exécution provisoire, évidemment, elle pense à elle-même en le disant. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là aussi, il y a un énorme décalage dans le comportement du Rassemblement national par rapport à son histoire. Le Front National de Jean-Marie Le Pen se faisait... se moquait en permanence de l'affairisme de la droite RPR et UMP. Pendant des années, Marine Le Pen, en 2012, accusait Nicolas Sarkozy de tremper dans des affaires, etc. Et aujourd'hui, ça, elle a complètement changé. Elle s'est normalisée au sens où elle est devenue une politique normale de droite qui défend l'affairisme, qui défend les personnes condamnées par la justice.
Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je l'ai pas mal étudié dans mon livre sur la question de... comment le RN morphe, qu'au début, quand il est sous la coupe de Jean-Marie Le Pen, extrêmement libéral, et il prend vraiment ses racines dans le Sud, qui est largement structuré par la guerre d'Algérie, en fait, et ses héritages. Puis après, c'est Marine Le Pen qui vient et qui prend la tête avec un côté beaucoup plus anti-système, l'UMPS, contre l'élite, et qui prend comme ça le Nord... et l'Est, qui sont des bassins désindustrialisés qui votent majoritairement pour des raisons sociales. Et puis maintenant, la bascule qui sera faite doit être pour accéder à la présidence à la fois l'union des droites. Et c'est pas étonnant que ce soit Jordan Bardella et Marion Maréchal qui reprennent la tête, qui sont eux des libéraux. Et moi, je trouve ça quand même assez fascinant qu'au sein du RN, là maintenant tout de suite, cohabitent deux visions extrêmement différentes, que sont celles de Marine Le Pen et celles de Jordan
les
Bardella.
Les libéraux et les protectionnistes.
Et les libéraux et les protectionnistes. Et que finalement, c'est autour de l'opportunisme politique que cette union des droites va finir par se faire pour des raisons judiciaires. C'est quand même assez extraordinaire quand tu réfléchis à toute l'infrastructure idéologique qui a été créée par le FN puis le RN, qui va finalement, en fait, cette union des droites, Marine Le Pen semble s'y ranger par opportunisme. Et c'est quand même, moi, ça me semble vraiment intéressant en cette période de normalisation et de banalisation de l'extrême droite.
Affaire à suivre, en tout cas, ce sera le 13 octobre que Nicolas Sarkozy aura rendez-vous avec le parquet pour que lui soit notifié la date de son incarcération, la date et le lieu de son incarcération, son rendez-vous, si je puis dire, qui doit intervenir dans les 4 mois qui suivent, je crois. Bref, d'ici à Noël, Nicolas Sarkozy dormira en prison. On aura le temps d'en reparler, évidemment. L'autre sujet qu'on voulait aborder, c'est la suite de la mobilisation sociale. Il y avait eu Bloquons Tout le 10 septembre. Il y avait eu la grande manifestation de l'intersyndicale le 18 septembre. L'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, après sa rencontre infructueuse avec Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pensez que le mouvement social peut prendre de l'ampleur? Est-ce que vous pensez que le froid va décourager les manifestants? Comment vous voyez un peu... Je sais que la météorologie des mouvements sociaux, c'est vraiment pas une science exacte. Mais là, je vous demande quand même de faire l'exercice. Qu'est-ce que vous en pensez?
Honnêtement, enfin... là, j'ai l'impression que le 10 septembre et le 18 septembre, on a vu une mobilisation qui a malheureusement plus ou moins pris. Et je pense que, en fait, justement, si ces manifestations, elles mobilisent pas plus de personnes, je pense que c'est aussi dû à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que on a quand même eu des semaines, des jours avant, notamment la mobilisation Bloquons Tout, où en fait on a les médias qui ont passé leur temps à se poser la question de est-ce que ce sera vraiment dangereux, est-ce qu'il y aura des black blocs. Alors, en fait, toutes ces choses, tout ce langage, ça donne pas forcément envie de descendre dans la rue, parce qu'on se dit on va forcément se faire gazer si on descend. Et donc il y a ça, et il y a aussi tout le schéma national
du
maintien de l'ordre qui est de plus en plus virulent sous Retailleau, et qui fait que forcément on sait que on va participer à une manifestation pacifique, et en fait tôt ou tard, en fait à une intersection, et ben il va y avoir une charge pour X raisons. Et donc forcément ça n'incite pas forcément les gens à aller manifester. J'ai plein de d'amis autour de moi qui avaient peur de ça, qui se sont dit en fait j'ai vraiment peur de finir en garde à vue, j'ai peur de me faire gazer, enfin. Et donc je pense que c'est ce qui aussi fait que les gens ont moins envie aussi de se mobiliser.
Loumir, toi, tu penses que le mouvement du 10 et le mouvement du 18, c'était pas tout à fait les mêmes personnes?
Bah, c'est ce que j'ai vu chez moi. En tout cas, le mouvement du 10, c'est beaucoup plus gilet jaunesque, avec beaucoup d'anciens gilets jaunes qui se sont dit on va essayer de remettre ça. Là où ils n'ont pas forcément les moyens de faire grève, ils sont très peu syndiqués. Et le 18 est beaucoup plus organisé par la gauche, par des institutions comme les syndicats. Ce que je trouverais intéressant, c'est que ces deux mouvements se réunissent, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, un travail qui aurait dû être fait depuis 2018 et qui malheureusement n'a pas été assez fait, de faire se rencontrer ces deux mondes, qui sont des mondes avec des habitus d'engagement qui sont différents, avec des profils sociaux qui sont différents, des âges différents. Et je trouve que vraiment autant, bon, c'est mon travail, moi je suis activiste, je crée des campagnes. Donc je crois vraiment dans l'infrastructure. Je pense sincèrement qu'un mouvement ne survit pas, ne gagne pas dans le long terme s'il n'y a pas d'infrastructure qui le soutient. S'il n'y a pas de caisse de grève, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de recrutement. Et en même temps, force est de constater que l'approche un peu tradie des syndicats où on pose un préavis de grève et on fait une marche, ne fonctionne pas. Pas déjà quand même pour créer du rapport de force en ce moment, et elle exaspère un peu des gens qui ont l'impression, eux, de ne plus avoir la patience, en fait, de faire partie de ces marches, ne comprennent pas la stratégie de construction de rapport de force.
Par rapport au 10 septembre, je dirais en nombre de personnes mobilisées, l'intersyndicale a mis une vitesse quand même au mouvement gilet jaunesque.
Ben, c'est là où je pense que c'est pas forcément les mêmes personnes. Enfin bon, d'accord. Voilà, typiquement, moi j'étais dans les deux endroits, j'ai fait les deux. Mais si je regardais, par exemple, dans l'un, sur les groupes Telegram anciens gilets jaunes où j'étais, les gens ne faisaient pas grève, mais parce qu'ils sont pas syndiqués, parce qu'ils sont en intérim, parce qu'une journée de grève ça coûte cher, et il y a pas de caisse de grève. Et c'est là où je pense que si on avait plus fait ce travail de faire se réunir ces deux populations, alors ces personnes-là, soutenues par les institutions que sont les syndicats, oui, notamment par des caisses de grève, auraient pu, et par la meilleure connaissance de leurs droits aussi, parce qu'il y a une vraie absence de connaissance de ce que c'est le droit du travail, surtout quand tu es intérimaire, quand tu es en temps partiel, quand tu es en travail haché. Les gens ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire, ne savent pas comment on dépose un préavis de grève, etc. Et si tu n'es pas syndiqué, ce qui est quand même le cas, il n'y a que 4% par exemple des gens qui travaillent dans la logistique, qui emploient majoritairement chez moi les gens qui sont syndiqués. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à le savoir, quoi.
Latifa ?
Oui, moi j'étais surprise par contre du 18 septembre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Je m'attendais clairement pas à ça. Peut-être que c'était le fait que ce soit après le 10 qui était dont on a parlé hyper longtemps. En fait, on se disait bon, en fait, est-ce que c'est les médias qui sont en train de monter ce truc parce qu'ils sont passés à côté des gilets jaunes. Du coup là, ils ont peur de passer à côté de ce mouvement-là, donc ils font que d'en parler. Et en fait, ça faisait peur parce qu'on te dit ça allait presque être contre-productif parce que s'il y a pas assez de monde, ça va te décourager. Du coup, je me dis le 18, il y aura personne. Et en fait, oui, mais effectivement, comme disait Loumir, j'avais pas forcément penser à ça sur les deux catégories de population qui étaient présents aux deux événements. Après, c'est vrai que oui, pour l'organisation et tout. Après, pour la caisse de grève, il y en a une des syndicats, mais d'ailleurs qui existe depuis 2016, je crois, mais qui a rassemblé plus de 8,5 millions d'euros, si ça peut mettre un peu de baume au cœur. Et en fait, c'est super pratique parce qu'on peut voir à qui exactement ils ont donné de l'argent, y compris pour les gens qui sont en procès contre procès pour discrimination, mais aussi pour les grévistes. Et du coup, ils mettent tant donné sur plus de 8 millions qui ont été collectés depuis 2016 et sa création. Donc, mais pareil, en fait, faut être dans ces structures syndicales, tu vois, faut vraiment, exactement, faut être exactement dans ces. Enfin, moi non plus, je savais pas, et c'est en cherchant, je me disais quand même, c'est pas possible, il y a une caisse de grève pour les gens, et je suis tombée là-dessus. Mais je pense que quand t'es syndiqué dans ta structure, tu vas l'avoir et tu vas en bénéficier. Mais à l'inverse, si t'as envie de t'engager chez toi, de ton côté, c'est plus compliqué. Et évidemment, on en parle tout le temps de dire, vu que la réforme des retraites, c'était perdu. C'est difficile de remobiliser les gens ensuite, et c'est normal. Et surtout qu'en fait, il y a aussi pas de gouvernement. Donc à qui demander ? Qu'est-ce qu'on demande vraiment ? En fait, les gens ont tellement ras-le-bol de tout que même avoir une demande qui soit plus précise et qui rassemble tout le monde, c'est peut-être plus compliqué qu'à d'autres périodes.
Il n'y a pas de gouvernement. Non, vas-y, Nabou.
Justement, par rapport aussi au fait qu'il y ait ces deux dates, moi, je trouvais ça dommage que la date du 18 soit posée ensuite avec ce cadre de c'est les syndicats, c'est les partis politiques, comme si se désolidarisait en fait de la. L'énervement général de la population, et au lieu de se mettre avec elle et de monter enfin sur ces grands shows, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment de plutôt que de faire corps tous ensemble, de se déceler, de prendre un peu de recul par rapport à ça et de se dire ah non non mais nous on n'est pas avec eux, on fait un truc un peu plus structuré, un peu plus respectueux des règles, tout ça.
Et ouais, mais en même temps, je constate que ça marche mieux. C'est-à-dire que l'innovation des modes d'action du 10 septembre, le bloquons tout, n'a pas ramené les foules de la marche intersyndicale traditionnelle du 18.
Surtout que la méthode, elle était floue, tu vois. C'était bloquons tout, mais c'est on bloque quoi? Il y a des gens qui disaient non, faut pas payer en carte bleue. Il y a quelqu'un d'autre qui disait non, faut pas sortir de chez soi ou faut pas consommer du tout.
Les books Telegram la veille, c'était zinzin et on voyait vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est un fossé entre la respectabilité du 18 et le niveau d'énervement des gens sur les boucles qui préparent le 10. Où j'ai retrouvé le même esprit un peu de radicalité du dernier moment qu'il y a eu à la fin des Gilets jaunes, en fait, quand la police a commencé à raser les campements, et où là, il y a quand même eu... On a commencé, en tout cas chez moi, à avoir des conversations sur est-ce qu'on pète les rails de SNCF, est-ce qu'on fait une intervention sur la centrale nucléaire, parce que j'habite à côté d'une centrale nucléaire. Et là, il y avait cette espèce de multitude de tactiques sans queue ni tête un peu. Mais encore une fois, c'est un métier d'organiser des campagnes et du rapport de force, donc c'est pas surprenant. Mais en tout cas, ce que je constatais, c'est qu'il y avait vraiment du on fait une opération caddie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met plein de trucs dans un caddie et puis après on arrive à la caisse et on dit bah non, on peut pas payer. Puis après t'as des gens qui disent bah non, moi je travaille chez Intermarché, c'est nous qui allons devoir tout remettre, ça fait chier, ça n'a aucun sens. OK, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on achète rien. Bon bah on prend le caddie puis il est vide et puis enfin tu vois, ça partait dans tous les sens. Et au-delà de ce que ça voulait dire d'immaturité, je pense du mouvement, ça dit aussi beaucoup de les gens ne savent plus quoi faire tellement ils sont fatigués et sur les nerfs en fait.
Et qu'ils se font pas entendre aussi.
Oui, ils ont l'impression que rien ne va marcher ou quoi, alors que quand alors je disais il n'y a pas forcément de, entre guillemets, cause commune, c'est faux parce qu'il y a la justice fiscale si tu veux faire cette transition, Jean, mais sur la taxe Zuckman, etc.
Exactement, c'était toute la transition que j'attendais. Merci Latifa. On a un espèce de parfum de gauche au pouvoir. Moi, ça me fait mourir de rire. Cette espèce d'ambiance là où toute la droite pète un plomb sur la taxe Zuckman qui a réussi à faire son bonhomme de chemin dans l'espace médiatique, dans l'esprit des Français, dans les discussions, dans les bistrots, dans les dîners de famille. La taxe Zuckman qui fait péter un plomb notamment au patronat, le MEDEF a décidé d'organiser le 13 octobre prochain, jour de rendez-vous de Nicolas Sarkozy au parquet, ça sera marrant, d'organiser un grand meeting patronal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grand rassemblement patronal en France. Je crois que la dernière fois ça remonte aux années Jospin contre les 35 heures où il y avait eu des grands raouts. C'était déjà plus le CNPF, je crois, c'était déjà le MEDEF, je sais plus. Donc non, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette taxe Zuckman dont on parle de plus en plus?
Ah mais c'est comment dire? Oui, effectivement, quand on voit, en fait, un bon signe qu'une mobilisation, quelque chose monte dans l'opinion, c'est quand les plus riches s'expriment ou se mobilisent, etc. T'as parlé du MEDEF. J'ai découvert une association, je crois, des entreprises privées qui regroupe tous les vraiment les plus grosses entreprises de France. Ouais. Et ça fait des années qu'ils n'avaient pas fait une conférence de presse. Et là, ils en font une, le thème justice fiscale. Bernard Arnault qui parle aussi.
Qui pète un plomb, lui aussi.
Oui, ouais, qui est apparemment dans la mesure.
D'accord, ok.
Mais voilà, qui nous dit que. Qu'est-ce qu'il a dit sur Zuckman?
Que Zuckman était un militant d'extrême gauche qui veut détruire l'économie française.
Voilà. Et qu'il est communiste.
Communiste.
Oui, voilà. Alors, ouais.
La peur du rouge.
Le retour du McCarthy.
En fait, ce qu'on voit, et moi, ce qui me rend ouf, c'est sur les plateaux de télévision. On est là pour dire, on est en train de parler de 1800 foyers fiscaux, en gros, c'est comment ils vont payer. Et à quel moment on accorde aussi ces temps d'antenne pour dire, aujourd'hui en France, il y a environ 10 millions de personnes seules qui vivent avec moins de 1300 euros par mois. Est-ce qu'on va faire des plateaux pour dire comment un tel va payer son loyer, comment une mère célibataire va remplir le caddie pour ses enfants, comment cet ouvrier à la retraite va... Ça n'existe pas, nulle part. Et là, en fait, on est en train de nous occuper, de nous polluer l'espace médiatique avec 1800 personnes. Pourquoi? Évidemment, parce qu'elles touchent les plus riches. Ces plus riches-là ont des relais. Et puis c'est pour ça qu'on en parle davantage. Mais c'est c'est en fait c'est presque indécent. Surtout, enfin, l'inflation, qu'est-ce qu'elle a fait au foyer, c'est incroyable. On a des multinationales, des entreprises qui s'en sont mis plein les poches sans jamais être taxées.
Avec notre argent, hein,
ouais. Enfin, c'est quand même, c'est la moindre des choses qu'il y ait une taxe sur les ultra riches quand on voit que, oui, il n'y a pas de ruissellement.
Il semblerait, selon les rumeurs, il semblerait que le Cornu souhaite effectivement faire contribuer les ultra riches dans le budget. Ouais. Probablement pas la taxe Zucman, probablement pas le retour de l'ISF, peut-être un mix des deux. Apparemment, c'est en cours de réflexion.
Oui, parce que là, il voit très bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose et il faut envoyer un signal.
Il y a un risque, c'est qu'il ne satisfasse personne avec ça.
Voilà.
C'est que les riches soient pas contents parce qu'ils sont plus taxés et la gauche soit pas contente du tout parce que c'est pas la taxe Zucman. J'en sais rien, on verra bien. Non, je sais pas.
Moi, ce que je trouve très intéressant que tu as dit, c'est le relais. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me bute. C'est les gens, alors notamment chez moi, quand on dit riche ou patron, les gens, ils pensent à leur tonton qui a une PME ou une TPE qui rentre 5000 balles par mois, qui travaille 80 heures par semaine. Mais on parle pas, mais tant mieux pour lui. Mais tant mieux pour lui, vous avez une piscine creusée, vous avez acheté un SUV, vous partez en vacances. Mais tant mieux pour vous. On ne parle pas de vous. On ne parle pas de vous. Vous ne ferez jamais partie de ce club exclusif. Jamais. Vous avez plus de chances de devenir SDF que de devenir milliardaire. Donc en fait, il faut arrêter de croire que vous êtes dans la même équipe. Ces gens, ils vous rouleraient.
C'est très puissant, ça, comme
non, mais c'est, et ça me rend zinzin parce que c'est comme cette espèce d'identification sur patron. En fait, non, quand tu es auto-entrepreneur parce que tu fais les ongles à domicile, tu n'es pas patron comme Bernard Arnault, en fait. Donc, vous n'avez pas les mêmes intérêts, vous n'avez pas les mêmes conditions matérielles de vie, donc arrêtez de les défendre. Vraiment, ça me bute de croire que tu penses que tu as plus en commun avec Bernard Arnault que avec Ahmed du bout de la rue, qui pourtant travaille sur la même chaîne chez VP ou chez Amazon que toi, ou que ton voisin qui touche 1004 alors que toi, tu touches 2003. Ouais, et vous êtes
mais
dans la
verra.
Même équipe.
Moi, je suis très curieux de voir les micro-trottoirs au moment du meeting du MEDEF le 13 octobre. Tu verras que ça va être des petits artisans, des petits commerçants.
Mais c'est ça, t'as envie de dire, s'ils pouvaient te rouler dessus pour aller acheter un quatrième yacht, ils le feraient. Mais vraiment, mais moi, ils sentent pas les steaks de toi.
Ça, c'est dû au fait aussi qu'on n'a pas laissé aussi l'espace médiatique pour mieux expliquer la taxe Zucman, pardon. Et que du coup, tout de suite, on a mis taxe Zucman est égal, voilà, on va taxer tous les riches et en fait, on simplifie tout ça. Et donc, forcément, il y a des gens qui se disent, oh ben, ça va être moi. Et il n'y a pas eu cette pédagogie-là. Et je pense que, enfin, quand elle a été là, elle a été plus faible que les voix dissidentes.
Ouais. Non, mais c'est vrai, autre pédagogie qu'il n'y a pas eu, c'est quand Bernard Arnault dit, l'économie, etc., va être à terre. Alors, c'est pareil, il y a plein de gens aussi qui, ça revient beaucoup, même dans des discussions privées, des choses comme ça. Oui, mais c'est eux qui créent la richesse. Oui, mais voilà. En fait, c'est les entreprises qui créent la richesse, elles créent de l'emploi. Donc, eux, s'ils n'ont pas d'argent, nous aussi, on n'en a pas. Alors, non, parce que la contribution aussi par l'impôt, qu'est-ce que ça permet de créer? Des services publics de qualité, qui créent aussi de la richesse, et leur richesse individuelle n'existe pas sans notre richesse commune à nous. Et notre richesse commune, elle est où? Elle est là-dedans. En fait, elle est dans des hôpitaux de qualité, elle est dans les écoles de qualité. Et en fait, effectivement, ça passe par de l'impôt. Et le consentement à l'impôt, par contre, là où je suis d'accord, c'est que la question du consentement à l'impôt, c'est aussi le fait d'avoir ces services publics-là de qualité. Là, on est à l'Association des maires ruraux de France. Donc, l'accès aux services publics est aussi une grande question. Et quand les gens sentent que, bon, bah, en vrai, apparemment, on paye des impôts, mais on n'a pas de services publics, ça pose un problème. Mais c'est aussi ça, en fait, cet argument qui revient tout le temps. Non, mais il crée de la richesse. Non, en fait, il y a une richesse qui existe, elle est commune, et on y contribue toutes et tous, et on devrait y contribuer toutes et tous à part égale, en fait, et selon notre richesse et nos revenus.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant ce temps-là, on n'a toujours pas de gouvernement. Le Cornu, Sébastien Le Cornu fait des consultations, Sébastien Le Cornu fait des déplacements, Sébastien Le Cornu annonce des mesures. Sébastien Le Cornu n'a pas encore composé de gouvernement. Il se dit même qu'on n'aura peut-être pas de gouvernement composé à la reprise du Parlement le 2 octobre. Ça attendra peut-être encore une semaine ou deux. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et pourquoi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout? Pourquoi j'ai l'impression que ça... Non, mais c'est intéressant.
Qui s'en fout ici?
Qui non, s'en moi, fout je, on n'a pas de moi, gouvernement, ça n'intéresse personne. Parce
moi,
que rappelez-vous Michel Barnier. Non, mais voilà. Rappelez-vous Michel Barnier, tout le monde était dans l'expectative. Qui va devenir Premier ministre? Quel signal?
Mais c'est parce qu'on pensait qu'on avait une chance à gauche encore.
Exactement, oui.
Maintenant, on sait
qu'il s'est foutu, quoi. Mais je pense, enfin, c'est juste qu'on est.
Nous avons eu à l'usure.
Lassitude.
Oui, en fait. Mais enfin, de toute façon, on va le redire encore que démocratiquement, ça pose un problème. C'est quand même incroyable qu'on ait quand même l'UNFP arrive en tête, et là on se retrouve avec un Macron bis.
Ouais.
C'est ça.
Oui,
un Macron bis, etc. Donc, en fait, qu'ils fassent leur gouvernement, qu'ils le fassent pas, de toute façon, ils font les trucs de leur côté.
Comme ils en ont envie.
En fait, allez, nommer un gouvernement, au moins, ça fait quelqu'un sur lequel les organisations pourront faire pression. À la limite, c'est ça.
Pour le coup, qui nomme un macrombisme, c'est peu importe le profil du bonhomme, ce qui compte, c'est ce qu'il va faire et ce qu'il va présenter comme budget. Pour moi, l'exercice, ça va être la présentation de sa politique générale, ça va être la présentation de sa première mouture du budget, les négociations sur les amendements en commission des finances. C'est là qu'on verra de quoi il est fait, le Sébastien Lecornu. C'est pas dans le casting de son gouvernement.
Mais tu
vois, je vous avoue, je m'en fous un peu aussi.
Mais je trouve ça intéressant parce que peut-être que c'est... Parce que quand je t'écoute, je me dis oui, t'as raison. Tu vois, je m'étais même pas dit ça parce qu'en fait, j'avoue, j'en peux plus. Et du coup, je me dis, à force de maltraiter ce qu'est la fonction gouvernementale, ce que c'est censé d'être gérer les affaires courantes d'un pays, eh ben, on en arrive à se prendre la tête sur un casting. Alors qu'en effet, le plus important, c'est le budget. Mais tu vois, moi-même, pendant que tu parlais, je me disais, il a raison, oui, c'est vrai, finalement, on s'en fout un peu des ministres, mais c'est devenu ça, en fait, la politique
People
politics à outrance, tu vois.
On s'en fout du casting, ce qui compte, c'est les personnes qui sortent du bureau de Lecornu et qui témoignent devant les micros tendus des chaînes de télé sur ce qu'il s'est dit dans le bureau, où en sont les négociations, où est-ce que ça avance, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours au point mort. Je ne sens pas du tout le PS prêt à soutenir Lecornu. Je sais que le PS fait aussi monter les enchères de son côté. Il aurait tort de se priver. Mais sans victoire très symbolique sur l'ISF, sur la taxe Zucman, sur le retour de la retraite à 62 ans, j'ai du mal à imaginer que le PS soutienne. Et quand bien même le PS soutiendrait, je ne suis même pas sûr que ça passe.
Moi, je pense que... Enfin, on a l'impression qu'il n'a pas l'air d'être très pressé. Mais en fait, je pense que juste il est dans une impasse totale. Parce qu'il ne faut pas qu'il réitère les mêmes erreurs que Barnier ou Bayrou. Et donc, il faut qu'il réussisse à convaincre tout le monde et en même temps personne, quoi. Enfin, il réussira jamais à consulter tout le monde. Et donc, il est juste, je pense que il est tout aussi embarrassé que nous, dans le sens où s'il essaye de faire abstraction, du coup, du PS, ben, ça va forcément mener à nouveau à une nouvelle censure et rebelote. On est au même point, en fait. Donc, c'est un cercle vicieux.
Mais moi, je pense que c'est impossible. Je commence vraiment à penser que la dissolution, c'est le truc qui a le plus de chances d'arriver. D'une manière ou d'une autre, je pense que Macron va peut-être se retrouver contraint et forcé.
Mais ça m'interrogerait de parler, tu vois, par exemple, aux maires qui sont ici, de dire, mais en fait, vous, ça vous fait quoi? Notamment pour les gens qui travaillent en mairie, la perspective d'avoir deux élections à organiser en mars, la menace de... Ouais, voilà, non, mais on a des gens... Et tu vois, typiquement, une des réactions qui avait été pour la dissolution juste après les européennes, c'est que les gens qui travaillent en mairie, ils étaient là, mais on est épuisés, en fait. On n'en peut plus. C'est une organisation monstrueuse d'organiser des élections pour les gens qui travaillent en mairie, qui sont déjà sous-staffés et sous-financés. Et je trouve que encore une fois, le mépris de la réalité est tel que là, enfin tous les jours, tu vois, on arrive à faire des blagues. Dissolution, pas dissolution, on va voir. Mais en fait, il y a des gens dont c'est le quotidien, dont c'est la vie. Et je trouve ce mépris pour les conséquences que des décisions prises au sommet vont avoir pour nous. Et les maires, notamment, parce qu'ils sont eux-mêmes en pleine campagne, quand même, de réélection. Enfin, il y a quand même 36 000 listes de gens qui sont en train de se constituer, d'écrire un programme, de créer des équipes. Donc, ça veut dire quoi? En plein milieu, on va dire non, en fait, alors attendez, c'est déjà suffisamment compliqué d'intéresser les gens à la politique. Donc, en fait, non, on allait vous parler de ce qui va se passer au niveau local, mais en fait, attendez, là, on revient sur l'Assemblée nationale, puis alors après, on va revenir. Enfin, c'est pas sérieux, en fait.
C'est vrai que les maires et les maires qui sont ici, les maires ruraux en particulier, sont concentrés également sur les annonces budgétaires, quel que soit le gouvernement, pour savoir s'ils auront une DGF qui ressemble à quelque chose l'année prochaine ou s'ils vont devoir annoncer des très mauvaises nouvelles à leurs administrés à quelques mois des élections. C'est très concret, c'est effectivement très concret. Autre sujet qu'on voulait aborder, c'est la manifestation de la FNSEA, syndicat agricole contre les droits de douane et l'accord UE-Mercosur. Journée de mobilisation intéressante, Loumir, je voulais t'entendre dessus parce qu'on a vu que les écolos ont appelé à manifester avec la FNSEA.
Mais enfin,
qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu prends les revendications, les inquiétudes premières des agriculteurs, c'est le prix. Eh oui, normal. L'adaptation au changement climatique et après, mais à 10%, hein, l'adaptation aux normes. Donc ce qui se passe, c'est que, comme souvent, les gros instrumentalisent les petits et que les capitalistes sont les meilleurs sur Terre pour trouver, pour identifier le problème et trouver une mauvaise solution. Et je pense que le mouvement des agriculteurs de l'année dernière montre exactement ça, qui est que, en fait, et l'incapacité de la gauche et notamment des écologistes à comprendre le problème qui est quand même, ça fait 50 ans, on leur a dit il faut produire. Maintenant, le sujet, c'est pas de s'occuper de la nature, c'est pas de prendre soin de la biodiversité, on s'en fout, faut produire. Et là, on se dit tous collectivement, attends, en fait, ça marche pas, ça. On sait pas comment on va bouffer en 2040. On sait pas sur quelle planète on va continuer à vivre et ce qu'on va laisser à nos enfants. Et là, on leur dit, non, là, attendez, demi-tour tout, on va faire exactement pas ça. Et les gens, moi, je ne sais même pas comment les agris aujourd'hui tiennent. Enfin, c'est héroïque d'arriver à se lever tous les jours sans vacances pour 350 balles par mois, avec quand même des prix qui changent tous les jours. C'est le yo-yo. Et je crois que collectivement, il faut qu'on arrive à identifier que une des causes profondes de cette situation, c'est le libre-échange. Et c'est le fait que peut rentrer sur des marchés des produits similaires à prix cassé sans les mêmes normes, le fait que ce soit des dirigeants en costard qui aient signé des accords à Bruxelles, à New York, alors que ça ne tient pas sur le terrain. Ça ne tient pas. Et je trouve ça vraiment bien qu'on change des postures, alors même qu'il y a eu beaucoup de violence, notamment des agriculteurs sur les écologistes récemment. On pourra en reparler. Et donc, c'est pas forcément évident de créer des solidarités et des coalitions. Mais je trouve ça très bien qu'on ait réussi à le faire. Parce qu'en fait, on a le même problème. On a identifié le même responsable. Et ça, c'est la continuation du libre-échange avec des accords type le Mercosur.
En tout cas, ça nous rappelle que la ruralité est plurielle, que les agriculteurs aussi sont pluriels, sont différents les uns des autres, que les alignements partisans des organisations syndicales sont plus compliqués à lire que ce qu'on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'il en est d'ailleurs de la Confédération paysanne et de la coordination rurale dans cette journée de mobilisation ?
La Conf a appelé à se joindre et la CR, dans mon souvenir, a dit qu'ils allaient demander une rencontre avec le Cornu pour faire le point. C'est les infos que j'ai.
D'accord.
Que tout le monde peut avoir parce que je les ai trouvés dans les journaux. Hein,
donc. Oui. Est-ce que l'idée, c'est de casser la logique d'alignement politique des syndicats sur les partis, comme on a pu l'observer entre la coordination rurale et le RN ?
Je pense que, comme toujours, quand on parle des vrais problèmes, c'est-à-dire des problèmes économiques et de vision économique, le RN est emmerdé. Parce qu'en fait, le RN, dès qu'il s'agit de parler de taxes, des vrais responsables de nos problèmes, c'est-à-dire un monde complètement déséquilibré où un tout petit nombre de gens ont un pouvoir disproportionné sur tous les autres, ils n'arrivent pas à identifier ça. Et c'est là, et je veux dire, on le voit bien, c'est la grande alliance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Elle est constante et la seule manière de ne pas la voir, c'est de continuer à trouver d'autres responsables de nos problèmes. Les migrants, les trans, les noirs, les arabes, les écolos, les Khmers verts. En fait, ce qui, moi, je trouve assez fascinant, toujours quand on fait du militantisme, c'est qu'au final, on se rend bien compte que les gens qui sont impactés par ces décisions trouvent des accords et des coalitions et des solidarités. Parce qu'en fait, on n'est pas débile et on est capable, quand on a une conversation, d'identifier que la plupart du temps, le responsable de nos problèmes, c'est le capitalisme fou et ses alliés politiques.
Vous êtes d'accord ?
Oui. Moi, je pense que même on va avoir d'autres types de solidarité inter-mouvement comme ça qui vont se multiplier dans l'avenir parce qu'il va y avoir d'autres accords de libre-échange qui vont être signés entre l'UE.
Il y a des négociations qui ont lieu en ce moment.
Et l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie. Donc ça va continuer en fait. Et donc il va y avoir tout le temps cette question aussi des conséquences que ça va avoir concrètement au niveau de la concurrence déloyale, de l'impact environnemental que tout ça peut avoir et aussi de juste les normes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à manger des aliments ultra transformés, ultra remplis d'OGM parce que ils n'auront pas réussi à négocier suffisamment le respect de nos normes UE alors qu'ils l'imposent en contrepartie à nos agriculteurs européens.
C'est lunaire. C'est lunaire en fait.
Non, c'est insensé de demander ça aux gens.
On va voir en tout cas à l'avenir si on continue à avoir des mobilisations comme ça contre le libre-échange dans lequel la FNSEA rentre, même si t'as le risque que la FNSEA ait un double discours entre ce qu'ils disent.
Moi, ça me fait assez sourire de voir le président de la FNSEA vent debout contre le Mercosur, alors que il y a quelques mois, pendant le mouvement des agriculteurs, pendant la loi du plomb, quand on a essayé de poser le sujet de l'emprise des multinationales sur l'agriculture mondiale, notamment l'agriculture française, c'est comme riche et patron agriculteur. Ça veut rien dire en fait, parce que entre les grands exploitants céréaliers, les éleveurs, les gens qui sont même en permaculture, tu vois, qui sont des néo, en fait, il y a plein de types d'agriculture. Et comme souvent, les plus gros et les plus riches captent la parole, capturent le débat public, et on a du mal à entendre les autres.
On voulait parler de l'extrême droite aussi, avec le discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Il a lâché la rampe, hein. Je crois qu'on peut le dire, là, ça y est. L'a-t-il déjà tenu un jour ? C'est vrai, c'est une bonne question, Loumire. Assez impressionnant, et notamment la distinction qu'on a entre l'extrême droite américaine et l'extrême droite française sur le style, notamment parce que l'extrême droite française continue à jouer la stratégie de la cravate, comme on l'a appelé, la stratégie de la dédiabolisation, la respectabilité, le fait d'aller draguer les milieux professionnels, les milieux d'affaires, le fait de bien se comporter dans les institutions, alors qu'aux États-Unis, on a l'impression qu'à l'inverse, ils ont lâché la rampe et ils ont lâché les freins et ça marche très bien pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Latifa ?
Est-ce que vraiment, effectivement, pour la stratégie de la cravate, la dédiabolisation et tout, mais enfin, c'est bien passé presque d'un point de vue marketing. Mais en soi, les gens qui entourent Marine Le Pen, qui entourent le Rassemblement National, des groupuscules ultra violents, jusque le milieu des affaires, etc., ça reste les mêmes personnes et c'est la même continuité parce que tous ces gens appartiennent à un même cercle social, se voient, échangent ensemble, etc. Donc là-dessus, c'est pas forcément, c'est purement stratégique. Et après, c'est vrai qu'on avait pourtant beaucoup parlé pour Zemmour de parallèle avec Trump, etc. Est-ce qu'il faisait pas la même chose, ou enfin, quand on voit le fait d'appeler pas mal d'influenceurs d'extrême droite, de faire appel à eux, de diffuser tout un tas d'informations complètement, complètement fausses, de détourner des récits aussi qui sont progressistes. Là, on le voit avec, les collectifs fémonationalistes qui vont s'emparer d'affaires de violences sexistes et sexuelles uniquement quand elles concernent des personnes qui sont sous OQTF, en tout cas qui en sont coupables. Et donc en fait, on voit de plus en plus, j'ai l'impression, les mêmes ressorts qu'on peut voir outre-Atlantique, etc. Donc c'est vrai que on a ce truc où Marine Le Pen est un peu plus, est-ce qu'elle présente mieux que Donald Trump, je sais pas, mais en tout cas qu'elle peut rassurer davantage les gens, mais est-ce que en fait finalement ça tient qu'à ça dans l'époque dans laquelle on est? Est-ce que ça va suffire aux gens? Je sais pas, mais en tout cas j'ai toujours ce petit recul sur cette stratégie sur dédiabolisation, et en fait il nous appartient aussi de davantage communiquer autour de ça pour les gens que l'extrême droite n'a pas changé en fait.
Loumire, toi t'as passé 7 mois aux États-Unis, t'as vu de près les dingueries de Donald Trump?
Ouais, je rentre de 7 mois dans le Kentucky et en Virginie occidentale, qui sont deux des États les plus acquis au Trumpisme. Mon analyse, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que en fait les États-Unis sont d'une telle violence quotidienne, c'est inimaginable pour nous qui vivons dans un État où il y a des services publics, où il y a, bien sûr, il est pas parfait, il est parfois défaillant. Enfin, je veux dire, on est en pleine ruralité, a fortiori, il y a des services publics qui ferment, mais c'est toujours d'ailleurs corrélé à une augmentation du vote d'extrême droite. On le sait, quand un service public ferme, la population se met à voter plus pour l'extrême droite. Mais en fait, ça n'est sans aucune commune mesure aux États-Unis. Par exemple, tu te fais renverser, donc mettons, tu traverses la route, tu te fais renverser par une voiture, tu n'appelles pas une ambulance, tu appelles un Uber parce que ça coûte trop cher, une ambulance. Et tout ça, c'est ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui occupent 1, 2, 3 emplois. Et donc, je crois assez sincèrement que dans un système où le capitalisme est tellement fou, où il est tellement destructeur, où les gens mangent de la merde, boivent... Enfin, je veux dire, dans les endroits où j'étais, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de système d'égout. En 2025, des égouts à ciel ouvert, il y a un tuyau et hop, ça sort. Et donc, je pense que pour justifier un tel niveau de violence, il faut un niveau de violence équivalent envers d'autres populations. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a autant de violence en ce moment de la police de l'immigration qui est en train de, littéralement de terroriser des millions de personnes avec ou sans papier d'ailleurs, des gens qui ont fait leur vie aux États-Unis, qui sont là depuis des dizaines d'années, qui est en train de terroriser la communauté LGBT, qui est en train de terroriser les antifas, à savoir ce que ça veut dire, on ne sait pas. Et je pense sincèrement que ce niveau de violence capitaliste ne tient pas si en face il n'y a pas le même niveau de violence. Et c'est ça qui explique, à mon avis, le niveau de folie, parce que, enfin, je veux dire, quand tu regardes ce discours à l'ONU, tu t'es dit mais c'est pas possible. Enfin, c'est un sketch. Ce mec ne dirige pas la superpuissance mondiale. Il parle, tu sais, c'est Joanne Chapoutot qui dit ça. D'autre manière, l'extrême droite, le premier truc qu'elle fait, c'est maltraiter le langage.
Ouais,
là,
ouais,
c'est
ouais.
Ça. Enfin, non, mais ça
il
s'explique.
Il parle des escalators, il parle du prompteur, il parle du building. Enfin,
il dit bon, alors le meilleur pays au monde, ça, on a compris, que tous les autres pays sont nuls. Que,
ouais, il le dit aux délégations, c'est ça qui est dingue.
Et là où ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que le masque s'en va pour la première fois, parce que les Américains ont l'habitude d'entendre ça. Je veux dire, c'est le clown depuis. Bientôt 10 ans, mais là sur la scène internationale, de voir tous les autres chefs d'État, je pense que ça a été quand même un grand choc pour beaucoup.
Mais je pense que, in fine, même s'il raconte toutes ces conneries, que ce soit sur la scène internationale ou dans son bureau ovale, quand il est posé avec président, ou enfin, en fait, à la fin, ce que les gens retiennent de son discours lunaire, c'est qu'il trouve toujours un bouc émissaire pour rejeter la faute de tous les problèmes. Donc, que ce soit « Ah oui, mais non, mais c'est à cause de Biden, ça va être à cause des immigrés, ça va être... » Et donc, les gens, ils retiennent seulement ça dans tout ce discours flou et qui n'a aucun sens. Et donc, ça les rassure parce qu'ils se disent « Ah ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé la réponse à mes questionnements, pourquoi j'ai pas accès à une santé, vraiment un niveau de vie décent, c'est parce que c'est la faute d'un tel, parce que Trump le dit. Et donc je pense que il y a ça. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur les influenceurs d'extrême droite en France, ils sont assez ressemblants. Alors, on n'est pas au stade d'avoir un Charlie Kirk en France. J'espère qu'on n'en arrivera jamais à là. Mais on est sur cette dynamique-là parce que le nombre d'influenceurs d'extrême droite qui ont rendu hommage à Charlie Kirk parce qu'ils sont dans la même idéologie, dans la même pensée, en fait.
Ce qui se nourrit, c'est qu'ils sont très admiratifs de Charlie Kirk.
Exactement, parce qu'ils se disent, on aimerait atteindre ce niveau-là, parce qu'on pour eux, c'est aussi la manière aussi de faire passer leurs idées. Et donc, ces influenceurs d'extrême droite, on pense qu'ils sont plutôt proches d'un Zemmour que d'une Marine Le Pen, parce qu'elle essaye de ne pas trop s'afficher avec eux. Mais au fond, ils sont dans ses rangs, ils sont parmi ses équipes, et il faut pas qu'on l'oublie, quoi.
T'as vu l'IFP, donc l'Institut de la formation politique, l'espèce d'école de l'extrême droite
à Lyon.
De Marion Maréchal à Lyon, a nommé sa prochaine promo la promo de Charlie Kirk.
Ah, super.
Non, je savais pas. Écoute, c'est bon à savoir, mais il y a effectivement un nourrissement de l'extrême droite européenne et notamment française de ce qui se passe aux États-Unis. Disons qu'il y a une extrême droite d'atmosphère aux States qui bénéficie à Marine Le Pen, même si en France on a la question de l'islam qui est spécifique à notre extrême droite à nous, qui en fait des caisses un peu. C'est un peu moins le cas aux États-Unis pour des raisons différentes, mais je reste circonspect, je ne suis pas convaincu que ça puisse encore permettre une victoire de Marine Le Pen à une élection présidentielle. Je pense que ça dépend encore de trop d'éléments. Le RN reste le premier parti de France, ils sont à plus de 30% aux européennes, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais de là à remporter une élection présidentielle, je m'interroge sur la capacité du Front républicain à se maintenir. Et le Front républicain, je rappelle que c'est pas un truc qui est fait par les partis, c'est fait par les électeurs qui décident de se lever le matin pour aller voter pour quelqu'un avec qui ils sont pas d'accord pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. À mon avis, c'est là-dessus que beaucoup va se jouer.
Oui, c'est sûr. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense sincèrement que le dernier barrage, les gens qui peuvent faire basculer la France dans un régime potentiellement autoritaire, parce que je crois qu'on c'est quand même toujours le projet de Marine Le Pen, c'est les classes populaires et les petites classes moyennes rurales. Ouais.